Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, on part en vitesse démesurée dans la folle histoire de l'espace d'une bande de personnages loufoques qu'on pourrait comparer aux héros de Star Wars avec des défauts de fabrication. Mais contrairement à la bande de George Lucas, ceux-là n'ont pas peur du ridicule. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et c'est avec le plus grand des plaisirs que je vous accueille dans cette deuxième saison de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Les vacances sont enfin terminées pour le podcast et elles ont fait un bien énorme. Elles m'ont permis de vous planifier beaucoup de nouveaux épisodes que vous pourrez découvrir et entendre tout au long des prochains mois. Et je vous assure que vous serez pas déçus avec ce que j'ai en réserve pour vous. Mais avant tout, il faut absolument que je vous partage une nouveauté qui va se répercuter dans tous les prochains épisodes. Contrairement à l'année dernière, où c'était moi qui choisissais les films dont mes invités et moi discutions pendant nos enregistrements, c'est dorénavant eux qui vont prendre le contrôle du sujet des épisodes. En effet, ils et elles auront carte blanche et aucune restriction pour venir discuter derrière mes micros du film de leur choix. Ce sera à moi de m'adapter à eux. Et d'après les titres qu'ont déjà choisi plusieurs d'entre eux, attendez-vous à des épisodes d'anthologie et éclectiques à souhait d'une fois à l'autre. J'ai déjà très hâte d'avoir toutes ces discussions en compagnie de mes invités, afin d'ensuite vous les faire entendre pour que vous alliez découvrir les films abordés, ou pour vous les faire revisiter sous un autre angle. Tout ça commence dès maintenant, alors qu'on soit la personne la plus parfaite qui soit pour commencer en force le grand retour de 100 commentaires ou presque. De plus, elle n'aurait pas pu choisir meilleur film pour créer une discussion cinématographique stimulante, drôle et divertissante à souhait entre nous deux. Bref, chers auditeurs et auditrices, c'est un épisode que je suis très fier de vous présenter. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle que tous les épisodes de la première saison sont écoutables et téléchargeables gratuitement sur SoundCloud, Réseau et Balado Québec. Vous n'avez qu'à taper le nom du podcast dans leur barre de recherche pour facilement y avoir accès. Je vous invite aussi à venir vous abonner au groupe Facebook du podcast au facebook.com/podcastscop pour obtenir avant tout le monde des infos exclusives sur les prochains épisodes à venir. Sans plus tarder, débutons immédiatement notre épisode d'aujourd'hui. Le film Spaceballs, l'année 1987, réalisé par Mel Brooks et mettant en vedette Rick Moranis, à l'époque où tous les studios de cinéma s'arrachaient ses services, John Candy, à l'époque où il était l'un des rois de la comédie au grand écran, Bill Pullman, à l'époque où les gens ne le confondaient pas à tout bout de champ avec Jeff Daniels, et Daphne Zuniga, à l'époque où sa carrière prometteuse commençait à prendre son envol. Et on est de retour, chers auditeurs. Est-ce que vous êtes prêts, comme nous, moi et mon invité, à commencer cette deuxième saison de 100 commentaires ou presque? Ben, nous autres, on l'est. Mon invité, j'en ai parlé dans l'intro, elle revient à la demande populaire après énormément d'excellents commentaires sur notre épisode sur Boulder Ram. Elle est de retour, la seule et unique au monde, Tina Faneuf. Tina, je peux pas te remercier assez pour que tu commences cette deuxième saison-là avec moi.
Je suis de retour.
Un énorme merci, comme je vous disais, t'es de retour à la demande populaire. J'ai eu énormément de bons commentaires au cours de l'année dernière, où est-ce que les gens n'avaient que de,
comme d'oreilles, parce qu'on peut pas dire de yeux.
C'est ça, avec le bon mot pour toi. Alors, très heureux. Puis, comme on dit, encore une fois, pour refaire une analogie avec notre sport préféré, le baseball, eh bien, on dit toujours au début d'une saison que c'est le premier frappeur qui va définir un peu l'allure de la saison d'une équipe.
Ouh, pression!
Bien, tu es mon premier frappeur. Alors, écoute, ça va être une christie de belle deuxième saison pour 100 commentaires.
La barre est haute, la barre est haute.
Tu as eu l'honneur et le plaisir de choisir le film dont on va parler aujourd'hui. Tu as choisi Spaceballs, la folle histoire de l'espace. Moi, je te cuisine tout de suite. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce film-là?
A priori, tu sais, je voulais reprendre le concept un peu de ce que t'avais fait l'an dernier. Tu sais, c'est de prendre quelque chose qui a eu du succès, qui est pas nécessairement bon, peut-être à quelques exceptions près, tu sais, des gros méga blockbusters. Puis tu sais, d'en tirer aussi quelque chose qui avait de l'humour, puis bon, qui était désopilant. Puis j'avoue aussi, il y a un petit plaisir coupable là-dedans. Sachant très bien que c'est un film qu'on connaît très bien tous les deux, si c'est pas sous toutes ses coutures, un peu comme justement Boulder Ram l'était, je savais que ça allait comme créer des super belles conversations et puis des échanges et des anecdotes très rigolotes. Puis l'autre petit plaisir coupable aussi, sachant très bien que t'es capable de faire les voix de plusieurs des protagonistes. Je l'ai toujours dit, de toute façon, c'est une vocation qui pourrait s'ajouter à ton arc un jour, justement de faire des voice-overs parce que t'as ce talent-là justement.
Effectivement.
Mais j'avoue que j'ai hésité quand même. Tu sais, il y avait vraiment un beau second. Tu sais, il y avait comme la fièvre du samedi soir qu'on aurait pu prendre aussi.
On peut garder ça pour notre troisième saison, si tout est possible.
Oh, c'est pas, voilà. Oh, voilà, sky is the limit.
Excellent. Je vais y aller, bien sûr, avec la fameuse question brise-glace. Moi, je veux commencer tout de suite sur les chapeaux de roue en te demandant Spaceballs, quand a été la première fois que tu l'as vu? Puis peux-tu nous conter un petit peu les circonstances qui ont eu lieu à ce moment-là?
Quand je te disais d'entrée de jeu, avant qu'on commence l'enregistrement, à quel point j'aurais pu te surprendre. c'est anecdotique, hein? Mais c'est très anecdotique, en fait. La première fois, c'est que j'ai reçu, c'est sorti en 87, et je suis née en 80, donc la cassette, oui, ça existait, les VHS, dans ce temps-là. Donc j'ai reçu la cassette à mon anniversaire, 88.
Est-ce que c'était une cassette minute?
Non, mais c'était le VHS, dans le fond, du film. Mais l'anecdote très drôle à propos de ça, c'est que la personne qui me l'a donné, c'est quelqu'un qui est pas très au courant, c'est des blockbusters ou des trucs comme ça, tu sais. Fait qu'elle, en me le remettant, quand je le développe, moi, je suis pantoise et je fais « Mais qu'est-ce que ce film? » Puis là, elle me dit « Tu vas voir les autres épisodes. » On m'a dit que c'était vraiment bon, tu sais. Donc, elle n'avait pas catché que c'était une parodie de plusieurs choses, dont Star Wars. Mais elle a monté une espèce d'histoire de « Ben oui, mais le vendeur m'a dit que c'était vraiment aussi bon que les autres épisodes et tout. » Et puis, bon, s'en suivit évidemment ce petit party de famille. Comment je pourrais dire ça? C'était un fou rire monumental parce que les autres membres de ma famille qui étaient plutôt geeks et connaissaient Star Wars ont fait « Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire là? » T'sais, donc, je pense que la soirée d'après cet anniversaire-là, je l'ai écouté. Mais encore là, ce qui est plutôt drôle, c'est que, étant donné que c'est sorti en 87, donc j'avais 7 ans à l'époque, puis donc la fête de mes 8 ans en 88, c'est que j'avais pas vu beaucoup de films dont ça fait référence dans ce film-là, oh, tu sais, okay. Comme aucun des Star Trek, pour faire des références, puis d'ailleurs, n'en déplaise à tous les geeks qui nous écoutent, je suis encore fier de dire que j'ai absolument rien vu, rien, mais de rien, que ce soit des films ou les séries ou quoi que ce soit de Star Trek. Je sais, ça manque peut-être...
ta dose de Shatner dans ta vie, toi.
Peut-être. Puis, bon, sans spoiler, être une divulgâcheuse, la fin du film où est-ce qu'on fait référence à la planète des singes, ça non plus, je n'avais pas vu cette franchise-là avant bien des années plus tard, où est-ce que, quand j'ai fait écouter ça à mon frère de 6 ans, mon cadet, c'est là que j'ai catché toutes les références, dans le fond, parce que sinon, avant ça, moi, j'étais comme, mais c'est quoi les singes à la fin? Ou tu sais, il y a plein de trucs pendant le film où est-ce que ma première écoute, pour mon premier visionnement, en fait, je pouvais pas faire les références ou les rapprochements en plusieurs trucs. Donc, c'est ça. Donc, c'était vraiment drôle pour cette tante-là qui s'est fait bafouer par le vendeur ou qui a inventé toute l'histoire au complet.
De mon côté, je peux peut-être y aller aussi avec ma version de l'histoire. La première fois que j'ai vu Spaceballs, la folle histoire de l'espace, c'était chez ma gardienne qui habitait pas trop loin d'où est-ce que j'habitais quand j'étais petit. Elle et ses deux filles, qui étaient un peu plus vieilles que moi à l'époque, adoraient le cinéma. Elles étaient abonnées à Super Écran, et etc. Puis il y avait une sacrée collection de films tapés sur des VHS. Puis à un moment donné, je débarque dans le salon après ma journée d'école et sont en train de regarder ça, Spaceballs-là. Je suis intéressé, je m'en vais voir ça avec elle. Et c'est là où est-ce que j'ai été complètement accroché. Tellement que à toutes les fois où je me rendais chez elle, première chose que je faisais, j'ouvrais le petit meuble en dessous de la télévision, je fouillais dans les VHS pour trouver la cassette de Spaceballs et je me le tapais en boucle. La version française, bien sûr, je pense que c'était tapé à TQS à l'époque ou quelque chose du genre. Fait que, il manquait des morceaux du film parce que ça avait été ajusté pour la télévision. Et mon Dieu, que mon expérience, je l'adorais de plus en plus à chaque fois. Et tellement qu'à m'amener un soir de fin de semaine, je pense que c'est le vendredi soir, ma mère vient me chercher. Sauf que ce que j'ai fait, je pense que c'était mes années de kleptomane qui commençaient, mais j'ai pris le VHS quand ma gardienne et ses deux filles regardaient pas, je l'ai mis dans mon petit sac d'école, je suis parti avec pour le week-end, puis après ça j'ai regardé Spaceballs. Ça a pas pris longtemps que mon père et ma mère fassent comme genre, tu sais que ça sent ce film-là, genre, je sais pas, en tout cas, whatever. Fait que là, anyway, ils m'ont fait aller faire le fameux walk of shame le lundi matin. Désolé, madame la gardienne, je vous ai emprunté votre film pour ne pas dire le voler, quelque chose du genre. En fait, c'était le risque que j'étais prêt à prendre parce que j'adorais ce film-là. J'ai tellement été geek de ce film-là que, écoute, mon père, qui était un bricoleur absolument fantastique à l'époque, m'a fait ma propre réplique de l'anneau de l'Achtus.
Oh mon Dieu!
Il a pris une de ses vieilles bagues très très belles. Ensuite, il a gravé dans un métaux quelconque un S qu'il a poli, qu'il a sablé, qu'il a peinturé genre en argent. Et j'avais, quelques jours plus tard, ma propre version de l'anneau de l'Achtus. Fait que là, des semaines après...
Est-ce qu'elle était aussi longue que la sienne?
Oh, il y a des bonnes chances en effet. Donc là, quand je sortais à l'école ou bien dans la ruelle avec mes amis, on jouait à Star Wars, là, j'avais mes amis qui étaient comme « Ah, moi je vais être Luke Skywalker, moi je vais être Darth Vader, moi je vais être genre la princesse Léa. » Moi j'arrivais « Je vais être Yop Solo, avec mon astuce, c'est meilleur que la force en plus. » J'étais la personne qui avait pas rapport, mais c'est pas grave. Ils m'ont fait une petite place dans leur univers de Star Wars, même si j'étais plus Space Boss. Puis là, des fois, on faisait des rencontres entre casque noir que je jouais, puis Darth Vader. Tu sais, l'imagination d'un enfant, ça a pas de limite. Alors voilà, j'étais très heureux d'avoir cette props-là avec moi. Et chapeau à mon père d'avoir pris le temps dans son établi de gosser ça, etc. Puis malheureusement, je l'ai perdu, je la trouve plus. Mais comme exactement dans le film, l'anneau, c'est de la Camelot, l'astuce est en moi. Alors c'est ça, et là, au fil des années, écoute, comme je dis, je le réécoute peut-être une fois ou deux par année. Récemment, l'année passée, je l'ai fait découvrir à une de mes amies qui connaissait un peu Mel Brooks avec des films un peu plus récents, genre...
Robin des Bois et Rocola, c'est ça, exactement,
je voulais dire, parce que Robin des Bois et Rocola, c'est drôle, mais pour une certaine génération de peut-être à peine 2-3 ans plus jeune que nous autres, c'est le film...
culte de leur... C'est de ça, leur tandis que... préadolescence.
Oui, exactement, ouais. C'est comme ça qu'ils ont découvert Mel Brooks, tandis que nous autres, c'est avec Spaceballs, tu sais. Alors, je trouve ça spécial.
Juste ça.
Ouais, c'est ça. Mais tant mieux, il découvre Mel Brooks d'une manière ou d'une autre. Alors, je suis bien heureux.
Mel Brooks a marqué l'imaginaire de, juste dans la version commentaire de Spaceball, il disait que c'était un enjeu déjà en 87, puis c'était un défi, oui, de reprendre peut-être certains classiques, mais d'essayer de rejoindre, c'est le youth qu'il utilise, tu sais, mais youth en anglais, tu sais, ça représente les 12 à 18, 19, 20 ans.
Parce que aussi, il a pris un pari audacieux parce qu'il sort un film de pastiche de Star Wars, etc., mais 4 ans après que la trilogie originale soit terminée. Alors, tu sais, faut que tu fasses confiance à ton public de pas avoir trop oublié les figures marquantes de cette première trilogie-là, etc. Puis aussi, c'est sorti durant la fameuse année 1987 dans le cinéma américain où il y a un paquet de classiques de genre qui sont sortis, des bons et des moins bons, tellement qu'à la fin de cette année-là, le public nord-américain avait une carence aiguë des films de genre. Fait que c'est pour ça qu'à partir de 88, en montant, le film de genre a pris un break dans le cinéma américain pour quelque chose d'un peu plus terre-à-terre, des polars, certaines comédies dramatiques, romantique, etc., mais des trucs comme genre Masters of the Universe avec He-Man ou les Back to the Future, etc., bon, ça a pris un certain break et ça pour revenir des années plus tard, mais c'est ça, c'est sorti pendant une espèce d'année incroyable qui nous a donné autant des classiques que, bon, des films un peu plus... qui sont devenus des classiques cultes, mais tu sais, pour les mauvaises raisons, t'es tellement mauvais que c'est bon, c'est ça, il y en a un paquet de ce genre de films qui sont sortis.
Et Dieu sait que notre liste, nous autres, on pouvait... à brûle pour point, on pourrait en sortir une liste de ça.
Il y en a énormément. Qu'est-ce que tu dirais si on rentrait dans le vif du sujet de Spaceballs? Eh bien, pour les gens qui ont probablement jamais vu ce film-là, je vais nous faire un résumé de l'histoire pour mettre les gens dans le bain. Alors, ça va comme suit. En plein espace intergalactique, le héros Yop Solo et son acolyte sont engagés pour secourir la princesse Vespa d'une tentative d'enlèvement de la part de Casque Noir, le vil seigneur de l'empire intellectuellement relatif des Spaceballs. Une fois la mission accomplie, Solo et sa bande devront traverser de nombreuses péripéties imprévues qui feront ultimement d'eux les seuls à pouvoir contrecarrer les Spaceballs dans leur plan de s'emparer de l'atmosphère et des réserves d'air de la planète natale de la princesse Vespa. Alors espérons que l'astuce soit avec eux pour qu'ils puissent réussir.
Ah non, moi c'est déjà juste Druidia comme nom de planète, c'est...
Je t'avais dit qu'il aurait fallu en mettre pour plus de 100$ hein, quand ça va être demain tout le long. Désolé, chers auditeurs.
Ah oui.
C'est merveilleux.
Ah là, les quotes, justement, on va en parler plus tard dans l'émission, mais c'est vraiment... on en utilise effectivement encore tous les jours.
Ah oui, 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 on a un aspect, on a un aspect qui s'en vient là-dessus sur les répliques qu'on utilise au quotidien dans notre vie de trentenaire. Bien sûr, Spaceballs, ce qui a réussi à faire son charme et faire en sorte qu'il existe de manière plus mémorable qu'il aurait dû l'être, c'est son casting, bien sûr, les personnages ainsi que les acteurs qui les campent. Il y a énormément à dire sur ce groupe d'acteurs-là que Mel Brooks a assemblé pour donner vie à cette fameuse parodie-là, parce que Mel Brooks a décidé de s'attaquer maintenant au genre de science-fiction. En premier, moi, j'ai remarqué qu'il y a une excellente distribution d'acteurs, de comédies, des vétérans, puis aussi des nouveaux venus qui étaient peut-être à leur premier film ou à leur tout premier balbutiement dans le cinéma américain. Il y a une réunion merveilleuse entre John Candy puis Rick Moranis, deux acteurs qui viennent du monde d'une série télé qui s'appelait SCTV, Second City Theater. En fait, ces gens-là, ils faisaient partie d'une troupe d'improvisation avec énormément d'acteurs canadiens qui ont percé Hollywood. Je pense aussi à Catherine O'Hara qu'on a pu voir, admettons, dans Beetlejuice, puis un paquet d'autres films comme ça, très populaires encore de nos jours. jour. Puis, ils ont fondé une espèce d'émission de télé qui s'appelait SCTV, qui était un peu notre Saturday Night Live canadien-anglais de la fin des années 70, début 80. Fait que ça a donné un tremplin absolument incroyable pour toute cette troupe-là, pour qu'ils aient vraiment propulsé dans la stratosphère des comédies américaines et tout ça.
Ça a été des gens qui ont bercé certains classiques de notre enfance. Quand on pense à John Candy, t'sais, on regarde t'sais, Uncle Buck, Splash, Who's Harry Crumb, il y a eu Planes, Trains and Automobiles.
Oui, je pense que c'est la même année que Spaceballs, en
tout
plus.
Tout à fait, effectivement. Puis Moranis, bon, t'sais, il y a Little House of Horrors, il y a Ghostbusters 1 et 2, évidemment, t'sais, puis il y a Parenthood, où est-ce que, t'sais, il joue un rôle. Mais t'sais, c'est drôle parce que après ça, on parle de lui, puis les gens, c'est facile pour eux de se remettre dans le bain de « Oh mon Dieu, les souvenirs que j'ai avec Rick Moranis », tu sais.
Oui, ben t'as tout à fait raison. Mick Moranis, c'est un acteur qui se fait beaucoup attendre ces temps-ci. Tout le monde souhaite un comeback de sa part, parce qu'au début des années 2000, il a un peu abandonné la carrière d'acteur pour s'occuper de ses enfants après la mort de son épouse, In Extenso, la mère de ses enfants. Alors, il a fait « Tu sais quoi, je vais me consacrer à ma famille maintenant ». Alors, tranquillement, pas vite, il commence à faire un petit retour ici et là. Il a fait partie...
À notre grand plaisir.
C'est ça, ouais, avec plaisir. Ben là, il a commencé doucement, il est revenu à ses ses premières amours, dis-je. Il a fait une petite réunion de l'équipe de SCTV. Je pense que c'était pour un show bénéfice dans lequel ils ont refait un best-of de leur sketch et Rick Moranis s'est joint à l'aventure. Donc, tout le monde a payé le gros prix pour assister à ça, pour principalement revoir Rick Moranis, de quoi il a l'air, etc., comment il a vieilli, etc. Puis, il commence tranquillement à être tenté par des petits retours ici et là au cinéma. J'ai hâte de voir ce qu'il va choisir comme projet, mais il sera toujours accueilli par le public.
Ah, c'est ça. Ouais, je pense,
justement à cause de cet amour-là, des souvenirs qu'il nous a laissés dans nos films.
Ça va.
Fait que la preuve qu'il a fait des bons choix de carrière dans sa vie, dans les films, qu'il a décidé de s'investir, tu sais. Aussi, ben, je peux parler, écoute, la présence de Mel Brooks. Ce gars-là œuvre dans l'humour depuis au moins le début des années 50 en tant qu'artiste, stand-up comique, auteur de sketch, auteur de monologues humoristiques, scénariste au cinéma, réalisateur de films aussi. Bref, pour Spaceballs, il agit vraiment comme le grand chef d'orchestre expérimenté de la comédie puis de la mise en scène. Ah, parce que ce gars-là, Mel Brooks, écoute, il est encore avec nous autres, il a 93 ans encore, puis il y a encore des projets et un paquet de trucs auxquels il participe. Puis ce gars-là, même en 87, c'est un génie. C'est le genre de gars qui va prendre un gag, le travailler, le rendre à maturité pour après ça, quand il est fin prêt, le donner à un acteur pour qu'il puisse le matérialiser à l'écran dans ses films. Tu pouvais pas avoir meilleur chef d'orchestre que ça dans pour tous ça, les niveaux pour être capable d'avoir corrigé le timing d'une joke, corrigé le timing d'une réplique. Même si tu travailles avec les John Candy, les Rick Moranis, eux autres,
ça prend un chef d'orchestre.
C'est ça, je suis pas mal sûr qu'ils ont pas fait les fines bouches puis snobé Mel Brooks. Je pense que Mel Brooks a eu l'attention puis le respect de tout le monde qui était impliqué dans ce projet-là. Ça paraît Mel Brooks dans ce film-là qui a du fun, puis aussi tu sais pour jouer deux rôles puis réaliser aussi, c'est quand même quelque chose. Même moi à l'époque, j'ai joué puis réalisé des films en même temps, puis c'est une crise de job, honnêtement. Alors j'admire beaucoup ça.
C'est ça, tu sais, personnifier un personnage, tu sais, comme à l'habiter, puis vraiment le prendre possession d'eux, comme, tu sais, quelqu'un qui s'approprie son travail. Déjà là, ça, c'est quelque chose, d'y mettre une âme, d'y mettre tout son cœur. Puis après ça, de changer de cassette, on va rester dans le VHS.
Aussi, en niveau de pérennité aussi.
Exact, on en parle encore
en 2019, tu sais, alors... Il y a eu un paquet de déclinaisons de Spaceballs aussi, qu'on va parler un petit peu plus tard, mais que ça existe encore dans la conscience collective, puis dans la pop culture. Écoute, chapeau, écoute, mission accomplie, Mel Brooks. Toutes mes félicitations. Aussi, on peut peut-être parler aussi des nouveaux venus là-dedans. Comme je disais, il y a un excellent cast de comédie. Mais il y a des petits nouveaux venus aussi. La présence de Bill Pullman qui prend le rôle de Yop Sulu. Le premier rôle aussi de Daphne Zuniga qui interpelle la princesse Vespa, etc. Je trouve que ça amène une fraîcheur à l'ensemble. Parce que bien sûr, Mel Brooks aurait pu, encore une fois, caster dans ce rôle-là des gens qui connaissent un peu plus vieux, etc. Ouais. Mais il a donné la chance à des nouveaux de venir se faire les dents là-dedans, de s'adonner à de la comédie. Puis je trouve que s'en tire très bien. Tu sais, Bill Pullman a fait un peu ce que Charlie Sheen a fait, admettons, avec les pilotes en l'air. Tu sais, acteur sérieux avec un range, mais qui se débrouille très bien dans la comédie visuelle, puis être capable de dire des répliques aussi de manière, tu sais, convaincante pour rendre l'humour derrière et tout ça.
Fait mais au moins, il n'a pas été campé là-dedans après coup. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vont jouer dans des comédies ou des choses comme ça, puis que Hollywood, malheureusement, va les enfermer dans ce carcan-là toute leur vie. Bill Pullman, après ça, il a fait vraiment de tout. Puis d'ailleurs, il s'est fait refaire les dents après ce film-là. Je sais pas si t'as remarqué, là.
Tu remarqueras,
tu sais, sa dentition dans... c'est vraiment un détail anodin, mais moi, je l'ai remarqué.
Quel œil.
Non, mais tu sais, quelqu'un qui sourit, tu le vois tout de suite, là, tu sais, je veux dire. Puis pour renchérir avec Daphné Zuniga, c'est, tu sais, à part la Mouche 2, puis les séries télé, puis les trucs comme ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage parce que c'est quand même une jolie fille, puis elle est drôle, puis tu sais, je pense qu'elle est capable justement, tu sais, quand elle fait justement sa princesse, tu sais, au début du film, puis très caractérielle et tout, tu vois qu'elle est capable d'avoir plusieurs chapeaux, mais je trouve ça vraiment de valeur qu'on l'ait pas revu vraiment beaucoup au cinéma ou au grand écran.
Je me souviens,
écran,
moi, j'avais capoté quand j'étais plus jeune à la revoir, avoir un rôle récurrent dans Place Melrose,
oui,
qui passait tout de suite après Beverly Hills à TVA le jeudi. Puis je me foutais de Place Melrose, j'écoutais juste l'épisode pour voir
Daphné
Zuniga, carrément, genre, je trouvais très jolie aussi, puis même que c'est drôle, en travaillant, je regardais sur Google cet après-midi, je regardais juste des photos d'elle, style 2019,
elle
un petit
vieille,
peu dans la cinquantaine, puis superbe,
très
jolie. Puis elle continue à travailler, elle fait au moins son film Steady à chaque année, c'est peut-être qu'elle a décidé encore une fois de se dédier à sa famille, à d'autres trucs, puis peut-être l'acting maintenant s'est rendu quelque chose de secondaire qu'elle fait toujours par plaisir pour avoir un cachet, mais tu sais, elle a pas besoin de ça pour vivre,
On va faire une parenthèse, tu sais, du cinéma hollywoodien, puis justement, une des fameuses phrases, quote, que Feu Princesse Leia a dit peu avant de décéder, en fait, c'est que c'est cruel, le cinéma à Hollywood, parce que dès que t'arrives à un certain âge, aussi bien entretenu et conservé sois-tu, c'est discriminant, on va toujours prendre les plus jeunes, même si la personne doit avoir full make-up pour jouer quelqu'un de 50 ans, on ne prend pas les gens de 50 ans, on prend les gens de 35, 40 ans, puis c'est cruel pour les femmes. Si t'es pas derrière la caméra un peu, rendu à 40, 50 ans, malheureusement, tu vas être campé dans des rôles de ma tante, de vieux, ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment difficile et cruel, comme au Québec aussi c'est pareil, mais Hollywood on s'entend que c'est vraiment
mais c'est ce que j'espère, qu'il y a quelque chose comme ça qui se produise pour les femmes, parce que je donne un exemple, depuis peut-être une dizaine d'années, la trend dans les films américains d'action, c'est de prendre des acteurs vieillissants, mais ce qu'ils ont pas en jeunesse l'ont en efficacité.
Je prends
par exemple les Liam Neeson, les Kevin Costner est rentré dans ce modèle-là aussi, il y en a plein d'autres, tu sais, Ben Affleck qui joue un Batman vieillissant, le héros maintenant plus vieux masculin, tu sais, mettons aussi Gerard Butler dans sa cinquantaine qui fait des trucs avec Morgan Freeman qui sauve la Maison Blanche, Bruce Willis, etc. C'est ce qui attire. Fait que pourquoi pas avec les femmes aussi, avoir ces femmes d'un certain âge, mais d'une efficacité. T'sais, ils ont commencé ça avec Jennifer Garner, avec un film qui s'appelle Peppermint, où est-ce que femme dans la quarantaine,
super,
encore une fois, qui fait un peu à la Taken, mais féminine et tout ça aussi. Alors, chouette que, t'sais, pas nécessairement dans des films d'action, mais qu'il y ait une ouverture pour ces femmes.
Ben, Linda,
un peu plus
au moins,
âgées.
Linda Hamilton reprend son rôle, tu sais.
C'est vrai, excellent exemple à partir du mois de novembre.
Ah,
c'est
que
vrai.
J'ai hâte.
Curieux de voir ce que ça va donner.
Tout à fait.
Puis mon dernier point aussi que j'ai remarqué par rapport à tout ça, la construction du projet, c'est aussi, on parlait, bon, mélange d'excellents castings de comédie, de jeunes visages frais et rafraîchissants, mais aussi Mel Brooks s'est entouré de vétérans de la comédie, ces vieux potes qui ramènent de film en film. Entre autres, il ramène une de ses bonnes amies, Joan Rivers, aussi humoriste et comédienne de plein droit, qui ont mis dans la voix de Doc Matrix, Dick Van Patten, comme tu disais, qui ont mis dans le rôle du roi Roland, Dom DeLuise aussi, qui fait la voix de Pizzarico.
Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, celle-là.
Absolument,
c'est
qui a beaucoup tourné années 70 et 80,
c'est
etc.
Vrai.
Fait que tu sais, il s'est ramené des repères sécurisants. Tu sais, mes amis, je vous aime, venez vous amuser avec moi un petit peu.
Exact. Ah, puis ça prend ça aussi à quelque part.
Absolument.
Aussi.
Fait qu'il s'est entouré de vétérans. Puis encore une fois, c'était un beau ménage de vieilles gardes de l'humour, de gardes bien établies, puis de nouvelles gardes là-dedans. Fait
finalement, c'est comme une équipe d'hockey.
C'est ça. C'est un mélange. Pour réussir, c'est ça que j'allais dire. C'est un mélange très fin.
On rappelle que la saison commence dans 3 semaines.
Exactement. C'est un mélange très fin de vétérans et de jeunes recrues. Voilà. C'est comme tu as gagné comme ça.
Exact.
On peut peut-être commencer à aborder les personnages, si tu veux.
Mm-hmm.
Moi, je vais me faire plaisir, je vais aborder tout de suite les vilains. On peut commencer, je peux les présenter un petit peu,
peux
embarquer
tout à fait,
si tu veux.
Oh, je renchéris, puis whatever.
On va commencer avec les Spaceballs. Ah, oh, les emmenus, on va recommencer. Casque noir, bien sûr, joué par Rick Moranis.
Je suis entouré de trop du cul!
Trop du cul! De toute évidence, un pastiche du bon vieux Darth Vader qu'on aime. Bon, Mel Brooks s'est amusé avec, a pris Darth Vader, a complètement inversé le concept pour le faire transformer en petit nerd à lunettes.
Je sais pas si t'as remarqué dans son costume, justement, de casque noir, outre le casque démesuré, il est bien gros, ce casque, that's what she said, là.
Comme il est gros, ce casque, oui, ok, désolé, on est parti.
Mais c'est ça, c'est que tu regarderas, il y a une espèce, tu sais, quelqu'un qui a un 3 morceaux, comme un suit ou quoi que ce soit, sur son débardeur, tu checkeras le bas du débardeur, c'est vraiment comme, il y a du vinyle ou je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment kitten, comme costume, tu sais, mais on voit vraiment comme le côté justement très éclectique, très je me fous de des conventions de tu sais de ce que Darth Vader a l'air, tu sais, et j'en fais quelque chose de
sa cravate.
Ah non non, écoute, la petite cravate vraiment trop courte, tu sais. Écoute, non c'est un bijou juste à regarder.
Moi ce que j'ai remarqué hier aussi, c'est que j'ai porté une rare fois attention vraiment au millimétré au costume de casque noir. Il porte une espèce de jumpsuit en lycra qui est très moulant, mais je sais pas si il s'est entraîné Rick Moranis en sachant que il allait être pendant 6 mois de tournage dans un truc très serré, mais il y a une très belle définition de pectoraux. Je sais pas s'il a fait un peu de bench ou quelque chose du genre, mais ça va se faire.
J'imagine tellement Moranis dans un gym à faire du bench.
Ah oui. Écoute, ça serait... Imagine-le sur un tapis roulant, ça serait très drôle. Mel Brooks, on en parlait, 2 rôles, en plus de celui du réalisateur, il fait le président Esbroof, ainsi qu'un peu plus tard, on va en discuter, mais Yaourt, l'équivalent de Yoda. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, mettons, Esbroof?
Il y a particulièrement une scène que moi... qui me fait toujours rire, c'est quand il y a la téléportation, puis mais il y a personne qui m'a dit que j'avais un aussi gros cul, tu sais, mais
après tout, ils le font bien dans Star Trek.
Exactement, tu sais. Ou même quand il se fait pogner dans les toilettes, puis il faut qu'il fasse l'espèce de signe, tu sais, l'espèce de salut des Spaceballs, puis il faut qu'il lâche ses bijoux de famille pour pouvoir le faire, et puis que malheureusement, sa commandant voit tout. Tu sais, il se prend pas trop au sérieux, puis tu sais, il est capable de se mettre dans des situations de profond ridicule.
Je suis d'accord avec toi, puis aussi tu remarqueras aussi, c'est un des seuls à faire ça, mais quand souvent il est entouré de casque noir et du Colonel Saint-Cyr, dont on va parler dans quelques instants. Colonel Saint-Cyr! Mais il y a souvent quand il dit quelque chose, Mel Brooks, c'est le seul, en fait, Esbroof, c'est le seul des fois à avoir des petits regards, c'est comme, regardez l'autre, t'as-tu vraiment dit ça? Genre, c'est comme, ah, quoi?
C'est vrai.
Fait que c'est, anyway, c'est son, ça fait partie de son petit jeu d'acteur, dans le fond, de remettre un petit peu en question, justement.
C'est même juste l'affaire aussi avec le code. Le code secret pour pouvoir entrer sur la planète Rudia, tu sais. Ah, tiens, c'est sur le même combinaison que ma valise.
N'importe quel idiot s'en sert pour ses bagages. Ah, mais c'est la même combinaison que sur mes bagages.
Et voilà.
Puis sinon, pour finir avec les vilains, mention spéciale, la médaille spéciale à George Weiner qui fait le Colonel Saint-Cyr ou en anglais Colonel Sanders qui pour une joke de PFK. Moi, c'est drôle, mais je trouve qu'il vole le show dans plusieurs scènes.
Ah, oui,
puis tu regardes le film, tu sais, il fait un peu le straight man versus casque noir et versus le président Esbroof, mais il est génial. C'est dommage qu'on l'ait pas vu dans autre chose, George Weiner. Comme je disais, c'est ça, la seule fois où je l'ai revu de manière consciente, ça fait quelques années, c'était dans American Pie 2. Il y a un moment où ce que Jim et sa blonde s'en vont dans un camp musical, puis il fait le directeur de ce camp-là, puis c'était comme, ah oui, mais tu sais, il y a un petit gag très efficace dans ce film-là, vous irez voir, mais j'étais comme, ah mon Dieu, c'est triste qu'on l'ait pas vu plus que ça.
Exactement, parce que, tu sais, même dans la version commentaire de Mel Brooks, tu sais, il disait à quel point il avait un profond respect pour George Weiner, puis tu sais que il adorait travailler avec lui, puis tout, puis tu sais, même moi après ça, après avoir écouté cette version-là, le commentaire de Mel Brooks, j'étais comme, ben oui, mais c'est vrai, mais c'est plate qu'on l'ait pas revu, parce qu'effectivement, il est efficace, il est drôle, tu sais,
talent, et voilà, ben tant mieux, au moins, on l'a à son meilleur, Spaceballs. S'il était pour nous laisser un seul souvenir de ses efforts dans le cinéma, on l'a parfaitement.
Tu sais, dans les personnages, je dois avouer, tu sais, que le personnage de John Candy qui fait barf en anglais, mais burk en français, puis comment je pourrais dire ça, c'est comme une espèce encore là d'une parodie, évidemment, de Chewie, tu sais.
Bien sûr, hein.
C'est ça, tu sais, mais c'est vraiment le l'aspect, tu sais, John Candy qui était quand même, tu sais, assez établi, même à cette époque-là, tu sais, puis de... J'aime les gens qui se sortent un de leur zone de confort, mais qui le font avec un humour et un, tu sais, je me prends pas trop au sérieux parce que, tu sais, c'est...
Aussi, il y a eu l'amabilité de faire ça parce qu'aussi, bon, Burke, c'est un certain rôle de soutien aussi. Il aurait pu dire, non, je
veux
un
premier plan,
et tout
ça.
Parce que non, il a pas été, tu sais, il a laissé la place à un nouveau, Bill Pullman et tout ça. Puis ce rôle de soutien-là, il le fait merveilleusement bien. De quoi même rendre jaloux Chewbacca, j'ai l'impression. On a parlé de nos 3 vilains, casque noir, le président Esbroof et Colin Saint-Cyr. Eh bien, que serais-tu si on allait les rencontrer via un petit extrait? Je vais vous montrer l'extrait où est-ce qu'ils vont parler un peu de leur plan de dérober l'atmosphère de la planète Druidia pour justement s'emparer de l'air et tout ça. Alors, on va regarder Casque Noir et le colonel Saint-Cyr discuter de ce plan machiavélique. C'est parti!
Maintenant que j'ai mon café, je suis bon pour le radar. Où il est? Il est à vous ordre. Branchez le télécran. Ah, je la vois. C'est la planète Druidia. Et sous son bouclier spatial, je vois 10 000 ans d'air extra frais. Il faut traverser ce bouclier.
On le traversera. Ensuite, on enlèvera la princesse. Alors son père, le roi Roland, sera contraint de nous donner la combinaison du bouclier. Ni vu ni connu, on détruit la planète Druidia et on sauve la planète Spaceball.
Vous avez tous compris? Bien. À quelle heure se marie la princesse?
Dans moins d'une heure, seigneur.
Eh bien, j'espère que ce sera une longue cérémonie, car ce sera une courte lune de miel. C'est pas du café, c'est du décapant.
Et voilà, vous avez tous compris le plan, j'espère que oui. On va parler maintenant un peu des héros. On peut commencer par, eh bien, notre Yop Solo, Lone Star en anglais. Bon, c'est pas mal évident qu'on a droit ici à un mélange d'Han Solo et de Luke Skywalker dans certains aspects. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite mythologie derrière lui. Il a été abandonné par ses parents à la naissance et c'est un orphelin qui cache un secret sur ses origines.
C'est drôle, ça fait le rappel. Ça fait le rappel avec Rey.
Exactement, j'allais dire la même chose. Je sais pas si JJ a regardé
ça
quand
exactement.
Il était en...
Mon Dieu, qu'on pense pareil.
Exactement. Donc, voilà, je sais pas si trop si on va découvrir que Rey, en mois de décembre prochain, dans l'épisode 9, eh bien, c'est la dernière princesse de l'espace.
voilà, c'est... Ah, et en plus, elle est Dwayne.
Pullman, pour embarquer un petit peu là-dessus, in extenso avec Yop Solo, ben c'est ça. Je le trouve sympathique parce que lui, on dirait qu'il affronte le danger, mais toujours avec un certain sourire sur le coin de la bouche. Il a l'air tellement cool, il a pas l'air super effrayé. Sauf que l'affaire, c'est que je me demande, c'est quoi au juste qu'il fait dans la vie, parce que ça a pas l'air d'être un contrebandier comme Han Solo. La seule indice qu'on a, c'est quand on voit justement le côté de son Winnebago spatial, on voit Lone Star Hero for Hire. Donc, juste un héros engagé, tout simplement, quand t'as des problèmes, quelque chose du genre.
Lui, au lieu d'être un tueur à gages, c'est un héros à gages.
Oh, c'est très bien dit. Voilà. Je sais pas si c'est une nouvelle profession qui a commencé dans le fin fond de l'espace, quelque chose du genre.
Qui sait?
John Candy, t'en as parlé. Bon, on va parler de Burke ou de Barf, notre équivalent.
Allez,
de...
vous mirer ailleurs!
Ça, c'était Mercedes. Pastiche de Chewbacca. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, comme t'as dit, parce que George Lucas a été très, très clair en disant que Chewbacca, qui a créé le personnage pour Star Wars, disait c'est complètement inspiré de mon gros chien Malamute. Et voilà, il a décidé de convertir ça en personnage dans Star Wars. Ben, c'est ça. Sûrement que Mel Brooks
a vu ça. Exactement.
T'es à l'écoute parce que regarde, Burke, c'est un chien. C'est ça, littéralement. Ce que j'aime à la différence de notre Chewie adoré, c'est que lui parle une langue qu'on connaît bien, qu'on entend bien et qu'on comprend. Donc, c'est ça qui est bien. Je pense que ça lui donne un petit supplément sur Chewbacca au niveau de l'audience. On est capable de savoir qu'est-ce qu'il dit. Puis, il y a une belle collaboration avec Yop Solo. Je demande comment ils sont connus. Ça m'intéresserait de voir Yop Solo, genre une histoire d'origine, un peu comme ils l'ont fait avec Star Wars. Mais je serais curieux de savoir comment ils sont connus, pourquoi est-ce qu'ils restent ensemble. Puis, je les trouve vraiment sympathiques. Je trouve qu'il y a une belle chimie entre Candy puis Bill Pullman. Pullman, la jeune recrue, a pas l'air impressionné par Candy. Je pense que peut-être avant le tournage, il l'a mis... Je sais pas si on était faire du canot ensemble pour souder, genre, le lien ensemble. Mais il y a une belle chimie entre les deux. Un a pas l'air impressionné par l'autre. Puis tout va bien. Moi, j'y crois qu'ils roulent dans l'espace depuis des années et des années, qu'ils ont eu des centaines de missions héroïques à faire. Donc, anyway, je suis content de voir John Candy là-dedans, encore une fois, un petit peu sur le côté, parce que lui, Candy, à cette époque-là, a le pouvoir d'être le leading man, payé le plus cher, mais il se met de côté un petit peu pour un rôle de soutien, mais que dont il a fait sa bitch. Excusez le terme.
Mais contrairement, mettons, à Chewie, tu sais, il fait des choses beaucoup plus wrong que Chewie, tu sais. Bon, c'est sûr, on reste dans la
satire.
Mais c'est ça. Mais tu sais, on regarde une des scènes de la fin où est-ce que, tu sais, il est au restaurant puis tu vois que,
sa
queue qui va en dessous de la jupe de la demoiselle, de la serveuse au restaurant, puis tu sais, il dit, ben, j'ai pas de contrôle dessus, tu sais. C'est ça. C'est exactement, tu sais, ça fait un peu le parallèle avec les hommes, tu sais. Oh, ben, j'ai un deuxième cerveau, tu sais.
Ouais,
donc, j'ai trouvé ça très, très, très rigolo à cet égard-là. Le make-up est vraiment très drôle. Tu vois les oreilles des fois qui tendent à s'abaisser ou quoi que ce
selon
soit.
Selon les émotions qu'il
exactement,
dit, c'est ça, oui.
Il y a eu quand même un petit travail sur le costume. Puis pour
mais un signal là-dessus, parce que plus tard, je vais revenir avec des anecdotes derrière coulisses, où est-ce qu'il y a eu plusieurs itérations du maquillage de Burke.
Ah.
Alors, on va en parler tantôt, mais oui, Candy, bon, écoute, tu peux pas y casser le visage. Alors, oui, tu mets des petites applications, puis on est capable après ça de le faire devenir un peu en chien, un peu canidé, puis après ça, tu gardes le reste du visage quand même à découvert parce que Candy, son visage est toujours très expressif.
Ouais, tout à fait.
Princesse Vespa, bien sûr, notre équivalent de la princesse Léa. Justement, c'est une fille qui est amenée dans un mariage forcé avec, je pense, le prince Valium, le dernier prince de l'univers. Alors, faut absolument qu'il y ait cette union-là.
Il faut que tu avales la pilule, ma chérie.
Exactement. Donc là, elle déteste Valium, elle veut pas se marier tellement qu'elle se sauve dans l'allée pour après ça foutre le camp de la planète. Elle veut absolument pas se marier. Ça fait en sorte que les Spaceballs lui tombent dessus. dessus, etc. Mais Vespa, c'est ça, elle commence très forte. Après ça, bon, c'est un peu en montagne russe parce qu'elle finit en demoiselle en détresse un petit peu, qui attend juste Yop Solo pour venir la sauver, à part un petit argument qu'ils ont au départ où est-ce qu'elle montre beaucoup d'attitude, mais il y a un moment où est-ce qu'elle va se faire kidnapper par les Space Boss, et là, bon, un peu demoiselle en détresse. Mais après ça, tout de suite après, quand on pense qu'elle va rester comme ça, il y a un moment où est-ce qu'on lui met un blaster laser dans les mains, puis Rambo peut aller se rallier. Fait que c'est là où est-ce que, tu sais, c'est...
Mes cheveux!
Ils vont me décoiffer, oui! Enfant de putain! Donc, ultimement, c'est ça, c'est pas une idée sur deux pattes, Princesse Vespa. Elle sert à quelque chose. On sent un peu de force en elle, du caractère comme la Princesse Léa l'a toujours été, en plus, au cinéma, et etc.
Il y a quand même un beau petit clin d'œil avec ses écouteurs quand elle se sauve.
C'est vrai, les bonnes, hein, c'est ça?
Puis que tu vois que son robot lui parle, tu sais, elle lui fait répéter parce que tu vois qu'elle soulève justement les écouteurs qui sont faits en l'espèce de buns comme la Princesse Léa, tu sais. Donc, j'ai trouvé ça très cute de faire ce petit rappel-là.
Puis on finit en beauté, bien sûr, avec la comparse de la Princesse Vespa, Dot Matrix, dont la voix a été donnée à Joan Rivers. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a probablement été planifié depuis longtemps parce que Dot Matrix, justement, elle a des cheveux un peu synthétiques, puis ils ont donné exactement la même peignure que Joan Rivers avait à cette époque-là. Donc, anyway, ça m'a
fait
bien
sourire.
Mais
moi, j'ai une question pour quelqu'un qui connaît bien les rouages du cinéma. Oui. Un peu. Pourquoi tu penses que, justement, Mel Brooks a opté pour une femme, justement, pour personnifier ce robot-là, cette acolyte-là de la Princesse Vespa, plutôt que, tu sais, de reprendre un rôle masculin comme ces trois PO l'étaient, là, tu sais. Bonne question, hein?
Ben, vu de même, il y a peut-être... parce que, encore une fois, c'est un pastiche. Fait que, qu'est-ce que tu fais au départ? Tu prends C-3PO. Pour tourner ça en pastiche, tu l'inverses. Fait que C-3PO est connu comme étant du type masculin. Tu
et
l'inverses.
Fatiguant.
C'est ça. Tu l'inverses, tu le mets en femme. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai pas de problème là-dedans. Là, t'as là ces petits moments aussi, ces petites répliques bien amusantes. Là, ça, c'est mon alerte virginale.
Virginale,
ouais. Elle est programmée pour se déclencher.
Bravo!
Absolument! On sent qu'ils viennent du même monde aussi. Surtout quand ils sont dans le désert et tout, dans l'espèce de planète désertique, ben, on sent que les deux, Vespa et Dot.
De l'huile! Maître d'hôtel! Maître d'hôtel!
C'est des poissons hors de l'eau. Au moins, bon, Vespa, elle est pas pognée avec deux doudes en rue, qui ont pas baisé pendant je sais pas combien de temps. Alors, au moins, bon, elle a une comparse avec qui elle peut s'identifier puis vivre cette aventure-là. Y a pas de problème là-dedans. Parlant de Yop Solo et de Vespa, bien sûr, tu sais, on sent que y a une petite romance qui s'installe par la force des choses, pour encore une fois prendre le trope qu'on a retrouvé dans les Star Wars avec Han Solo et la Princesse Leia. Ben, on peut peut-être aller voir un peu une scène de ce moment-là où est-ce que les deux sont assis dans le désert, dans la nuit autour d'un feu, et là, tranquillement, pas vite, les deux vont commencer à se parler, et c'est là où est-ce qu'on va découvrir le fameux médaillon de Yop Solo, qui est intraduisible, et voilà, on va découvrir un petit peu quel est ce mystère qui commence à englober Yop Solo, et un petit peu cette légère attraction qui commence à se bâtir entre ces deux personnages.
Votre planète, où est-elle?
Allez savoir.
Vous ne savez pas où vous êtes né?
Non, je n'en sais rien. On m'a abandonné encore bébé devant un monastère.
Un monastère? Et où ça?
Quelque part dans la galaxie Ford.
Oh, les moines ne vous ont pas révélé qui étaient vos parents?
Ils ne pouvaient pas. Ils avaient fait vœu de silence. Tout ce qui me reste d'eux est autour de mon cou.
Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas. Je l'ai montré à tous les plus grands érudits de l'univers et pas un n'a pu me dire ce que c'était.
C'est magnifique.
Alors, qu'est-ce qui vous a pris de fuir pendant votre mariage?
Eh bien, si vous tenez à le savoir, le fiancé ne me disait trop rien.
Pourquoi avoir accepté de l'épouser?
Parce que je suis une princesse, et je ne peux épouser qu'un prince.
Ah, vous ne l'aviez pas dans la peau, hein?
Non, comme vous dites.
Ah, je ne l'avais pas dans la peau.
Il faut vraiment que je reparte. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. Je dois me faire à l'idée que l'amour est un luxe qu'une princesse ne peut pas s'offrir.
Vous avez sûrement raison.
Je sais maintenant qu'il me faudra apprendre à vivre sans amour.
Ah, y a des chances.
Après tout, l'amour, c'est si important que ça.
Oh non, on peut s'en passer.
Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas heureuse jusqu'à la fin de mes jours sans amour.
Moi non plus.
Sans attirance physique.
Oui.
Sans être enlacé.
Oui.
Ah. Il t'a touché? Où t'a-t-il touché?
Oh, mais n'aie crainte, il ne s'est rien passé.
Mais qu'est-ce que c'était que ce bruit?
C'était mon alarme virginale. Elle est programmée pour se déclencher avant vous. Obsédée!
La dernière fois que j'ai vu de la haine se transformer si rapidement en amour pour se concrétiser en baiser, je pense que c'est dans un film de James Bond, License to Kill, avec Timothy Dalton.
Oh mon Dieu!
Il est avec la Bond girl, les deux se détestent, ils parlent un petit peu, deux secondes plus tard, ils tombent d'un bras puis ils finissent dans la cale d'un bateau en train de s'envoyer en l'air.
Je sais pas si t'as vu à quel point c'est cliché que ça soit, mais là c'est sûr que c'est représenté là, c'est hétéronormatif au bout là, homme-femme, mais tu sais dans le sens où est-ce que les deux vont commencer par se détester ou tu sais Ten Things I Hate About You avec Heath Ledger, ça commençait comme ça, tu sais. Il y en a plein des exemples où est-ce que les deux se détestent puis finissent tu sais dans les bras de l'un de l'autre. Regarde la liste encore là, elle est très longue, mais je trouve ça juste un peu pas cliché, mais tu sais dans le sens où est-ce que ça représente pourquoi ils peuvent pas tu sais juste assumer le ah ouais ok finalement tu sais je suis attiré vers cette personne là, mais non faut que ça passe par le je te déteste au début pour que tu sais ça finisse bien.
Ils passent dans une aventure spectaculaire. Pourquoi le danger s'allume dans la vie?
Ça rapproche.
Bien sûr, on parle de ce film-là qui est vraiment une parodie, qui va prendre des éléments tirés de d'autres films, les mélanger puis les transformer pour faire en sorte de créer une nouvelle entité. Nous autres, avant qu'on parle un petit peu de tout ce qui est parodié dans le film puis de quelle manière c'est employé pour que ce soit drôle, écoute, juste pour qu'on comprenne un peu plus où est-ce que je veux aller, j'ai sorti un peu tous mes souvenirs de Mel Brooks puis j'ai fait une petite analyse de qu'est-ce qu'il fait pour construire son humour. Alors, j'ai sorti une petite liste un peu informelle des tropes de Mel Brooks. Alors, si tu veux, je vais vous en parler immédiatement. Mel Brooks, dans ses films, il va s'approprier les genres cinématographiques pour les parodier des éléments forts et des tropes et des clichés qui les caractérisent. Il le fait souvent dans le début de sa carrière de réalisateur avec des différents styles américains de genre de films. En premier, on peut dire qu'il l'a fait avec les comédies musicales, avec The Producer, il l'a fait avec le western, avec Blazing Saddles, l'horreur avec le génialissime Frankenstein Jr. et Dracula mort est très heureux, la science-fiction bien sûr avec Spaceballs, le suspense hitchcockien avec par exemple High Anxiety qu'il a fait dans les années 70, le film muet même et un petit peu avec du péplum avec History of the World Part 1.
Ça tu me l'apprends, oui. Tu vois, je savais pas qu'il avait fait du muet.
Oui, exactement, il a fait sa lettre d'amour du muet. Un peu le film de guerre aussi avec un splendide remake du film des années 50, To Be or Not To Be, ça je le conseille à tout le monde. La satire sociale aussi dans les années 90, il a fait un truc qui s'appelle Life Stinks ou Chienne de vie en français et l'aventure bien sûr avec Robin des Bois, héros en collant. Donc je sais pas s'il reste un genre qui a pas touché peut-être la comédie romantique ou je ne sais trop, même je sais pas de documentaire, n'importe quoi, mais je suis sûr que c'est dans ses plans encore une fois. 93 ans, Mel Brooks, ça l'arrêtera pas, il a pas peur. Je pense qu'il va nous survivre toute la gang ensemble. Il va souvent briser le quatrième mur entre le film et les spectateurs. Vraiment, je pense à un niveau qui va rendre le héros Deadpool complètement jaloux. Et aussi, il va beaucoup montrer les outils du processus de production d'un film dans la diégèse du film qu'on regarde. Donc, on va souvent voir des caméras, des mouvements, des gars dans le plan, des perchistes, des affaires de même. On voit beaucoup ça, carrément. Il va également inclure des références visuelles puis musicales à d'autres films issus du genre qui parodie. Bien sûr, on va parler tantôt de la parodie, la scène du chestburster dans Alien. Je vais parler dans très bientôt
juste
aussi.
Juste le début avec le vaisseau.
Ah oui, oui, qui prend 1 minute 50 secondes à passer. Il y a des références aussi à Lawrence d'Arabie aussi, oui. Un film que Mel Brooks...
On va passer au Peng Fan.
Mel Brooks aussi, ce qu'il aime bien faire, c'est faire des gags à référence historique. Lui, c'est un gars dans sa filmographie qui sait beaucoup, parce que lui étant d'origine juive, il se motte énormément du nazisme et il va beaucoup s'amuser là-dedans. Il y a quelques preuves, admettons. Tu sais, tu devais m'amener dans Spaceball, justement, la fameuse scène où est-ce que les cascadeurs se font capturer, ben, le cascadeur qui fait la princesse Vespa a l'air d'Adolf Hitler, littéralement. Il va beaucoup avoir de l'humour qui fait référence à certains travers de la culture juive
tout
aussi.
Tout à fait, ouais.
Dans Robin des Bois, Héros en collant, le frère Tom, ben, il transforme en espèce de rabbin juif qui donne des circoncisions. Oh oui, j'en veux une, non, j'en veux deux! Ça. Il va faire également, bien sûr, des gags basés sur la physicalité, tu sais, du slapstick.
Burlesque à la Olivier Guimond.
Exactement, bingo, j'aurais pas pu mieux dire que ça. Puis aussi, ben, pour finir, il inclut beaucoup de gags issus de la culture populaire du moment où le film est tourné. Meilleur exemple dans Spaceball, la présence de Michael Winslow. Tu sais, le gars qui fait les bruits dans... qui fait l'agent... Comment il s'appelle dans... Police Academy, l'agent...
Oh,
c'est pas Tackleberry, c'est pas...
Ah, oh, j'ai un blanc, là, mais...
En tout cas, on va le trouver, là, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, il ramène Michael Winslow pour un petit moment où est-ce que Winslow fait exactement tout ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire, c'est pas pour jouer. J'ai perdu le bip, j'ai perdu le trip, et j'ai perdu le trip. Le quoi? J'ai perdu le bip.
Je sais qu'on va parler de nos scènes préférées, mais ça fait effectivement partie dans mon top 5, là, des bouts du film où est-ce que je peux quasiment rire à m'en taper sur la cuisse tellement que ça me fait rire, ce bout-là.
confiture. À la framboise.
Il n'y en a qu'un au monde pour oser me faire
le coup de la framboise.
Donc, c'est à peu près ça les mécanismes humoristiques que Mel Brooks utilise dans sa carrière cinématographique. Là, maintenant, on va s'attaquer tout de suite à Spaceballs, Tina. Et on va essayer de trouver et d'identifier justement ces mécanismes-là. Ils sont utilisés comment pour parodier les films de science-fiction et in extenso Star Wars.
Mais je vais te laisser commencer juste pour voir
okay,
si
ben, regarde,
on
je peux y aller avec le je peux y aller avec le premier, le premier aspect ouais. évident, l'apparence des personnages. Il a pris Jabba the Hutt ou Jabba le forestier puis il a transformé ça en pizza de Hutt.
Si qui se mange en plus.
Sinon pizza, on va faire une livraison spéciale pour toi. Fait que c'est ça, tu sais, il a vraiment bon pris l'apparence des personnages puis il a reviré ça sur lui-même aussi.
Mais tu regardes juste même ceux qui font les Spaceballs, tu sais que ça reprend un peu les Stormtroopers où est-ce que ouais. les casques sont à l'envers, tu vois visiblement qu'ils sont à l'envers ou tu sais que l'ouverture, tu sais oui. c'est vraiment
c'est des boules aussi les casques et les sphères, fait que les Spaceballs, c'est ça exactement. Bien, bien sûr aussi, ça tu peux m'accompagner quand tu veux là-dedans, le bruit du quatrième mur aussi, oui. les moments où est-ce que...
Il parle à la caméra.
Par la caméra, tu sais, on l'a vu dans l'extra qu'on l'a regardé, il sincère explique le plan, puis t'as un casque noir, puis vous avez tous compris en regardant la foule, c'est comme, ok, on a compris, Seigneur.
Ou même la scène avec le, mais quand est-ce que c'est maintenant? Maintenant!
Ah oui, on s'en vient très bientôt sur la cassette minute, j'ai déjà hâte. Il y a le moment aussi où est-ce que tout de suite après que le roi Roland ait donné la combinaison du, en fait, du bouclier spatial, t'as sincère avec sa manette qui fait comme, d'accord, merci, au revoir, il appuie sur un bouton pour couper la projection du mur, ben il coupe
ça
le film.
Caméra, ouais.
C'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai coupé le mur. Non, vous avez coupé la projection du film. Allez, le spectacle doit recommencer. Ouvrez le mur. Ah,
puis là, tu vois que c'est le chirurgien, puis ça, ils sont en train de se frencher à la bouche que veux-tu, là.
Avec elle pour creuser son trou. Pas besoin de golf. Écoute, je pourrais nommer des exemples et des exemples parce que ce quatrième mur-là est brisé pour constamment nous rappeler qu'on regarde un film. Je donne un autre exemple. Encore une fois, je pense que je vais faire une grosse publicité pour le film qui a fait en 78 qui s'appelle To Be or Not To Be, Être ou Ne Pas Être. Merveilleux film qui me fait rire à chaque fois. C'est grosso modo, ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande en Pologne. Puis on suit une troupe de théâtre qui essaie quand même d'exister puis de jouer sans que les nazis s'en rendent compte. C'est merveilleux. Puis il y a un moment où est-ce que le film commence, où est-ce que les personnages principaux qui sont joués par Mel Brooks puis sa femme, tout le long parlent en polonais. Sauf qu'il n'y a pas de sous-titres. Là, en tant que spectateur, tu fais comme... Qu'est-ce qui se passe? Vont-tu amener parler en français ou en anglais? Quelque chose de genre. Puis là, après deux minutes, t'entends une voix qui sort du speaker du théâtre qui dit « À partir de maintenant, les personnages ne parleront pas polonais. » Puis immédiatement, ils commencent à parler en anglais pour le reste du film. Fait que c'est ce genre de bris de quatrième mur, ouais. encore une fois, qui te rappelle que t'écoutes un film. Mel Brooks est un des maîtres là-dedans. C'est hallucinant.
Moi, je crois que c'est ça. Ça n'a pas été utilisé à maintes reprises avec, tu sais, dans d'autres réalisations ou dans d'autres, que d'autres personnes qui ont créé des films ont utilisé cette technique-là beaucoup dans, en tout cas, même dans la comédie, même dans n'importe quoi, j'ai pas retrouvé cet aspect-là du bruit du quatrième mur.
Il y en a assurément autant, eu, mais ils sont pas mémorables parce qu'on s'en souvient pas.
Ben exactement, moi, donc soit ça a pas été bien fait ou ça a pas été fait aux bons endroits pour fait que c'était que ça marque l'imaginaire qu'on s'en rappelle effectivement.
Puis ultimement que ce soit un bon gag aussi.
Oui, non, tout à fait.
Parlant de ça, écoute, j'ai envie de, chers auditeurs et toi Tina, de nous confronter à un extrait qui va encapsuler parfaitement ce bruit du quatrième mur-là, la fameuse scène de la cassette minute. Écoutez, je l'introduis.
La cassette minute.
La cassette minute. Alors, je l'introduis pas plus longtemps, je vous la montre immédiatement, elle me fait toujours marrer, et c'est parti.
Pardonnez-moi, Seigneur, j'ai une idée. Caporal, allez me chercher la cassette vidéo du film Spaceballs.
À vos ordres.
Colonel Saint-Cyr, puis-je vous parler?
À vos ordres.
Comment peut-il y avoir une cassette du film Spaceballs, puisqu'on est en plein milieu du tournage?
C'est une bonne question. Mais il existe un nouveau procédé de distribution vidéo.
C'est vrai?
Oui, c'est la cassette minute. Elles sont en vente avant que le film ne soit terminé.
Non.
Et voilà. Je l'ai trouvé.
Bravo, caporal. Chargez-la. Non, c'est le début, ça. Préparez l'avance rapide.
Avance rapide, prêt.
Avance rapide, feu.
Feu.
Qu'est-ce que c'est que cette scène? Ça se passe à quel moment dans le film?
Maintenant. Ce que vous voyez, c'est maintenant. Tout ce qui se passe maintenant est en train de se passer maintenant.
Et ce qui s'est passé avant?
On l'a passé.
Quand?
À l'instant. Et ce qu'on voit maintenant, c'est maintenant.
Alors, repassez-le.
Quoi?
Maintenant.
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 Je peux pas.
Pourquoi?
Il est déjà passé.
Quand?
Juste maintenant.
Quand est-ce qu'on arrivera à maintenant?
Bientôt!
Comment bientôt?
Seigneur!
Quoi?
On les a repérés!
Où ça?
Sur la lune de Vega!
Très bien, veillez à ce que tout soit prêt quand nous arrivons!
Mais quand ça?
À 19h!
Demain à midi, ils seront nos prisonniers!
Qui?
classique des classiques, cette petite scène-là, elle me fait rire à chaque fois. Plus les années avancent, c'est merveilleux. L'autre mécanisme aussi, bon, qui pop beaucoup dans l'œil, c'est les outils cinématographiques en interaction avec les personnages, les caméras, les techniciens, et etc. Le meilleur exemple qui, moi, me fait rire à chaque fois aussi, c'est justement après le moment avec Michael Winslow, quand Casque Noir baisse sa visière, fait comme « Il y en a qu'un au monde qui ose me faire le coup de la framboise! Yup, solo! » Là, t'as un traveling avenant de la caméra qui assomme Casque Noir, qui le fait tomber à renverse. Le son quand la caméra frotte la visière. Ah, c'est hilarant, puis tu le vois tomber en arrière. Brillant. Moi, ça me fait rire comme un bébé, genre, depuis que j'ai 6 ans. Aussi, dans le même ordre d'idée, lors du fameux combat à l'épée laser avec Casque Noir.
Il y a
non, mieux que ça, quand Casque Noir arrive pis slash un technicien avec son sang laser.
Il tombe.
C'est pas moi, c'est lui. Quoi? C'est brillant, ça aussi. Pis là, tu vois toute l'équipe technique, mais vraiment, tu dis, quoi?
Qu'est-ce qui vient de se passer?
C'est ça. Moi, ça, c'est pas pour tout le monde, ce genre d'humour-là, mais moi, non. Il me fait rire. Oui. Je le trouve brillant. On en a abuse pas non plus dans Spaceballs, c'est bien mis.
Mais comme je disais tantôt, tu sais, l'humour burlesque au Québec, du moins, je parlais d'Olivier Guimond, tu sais, père et fils, mais ça a toujours fait partie de nous, de notre culture. Les gens qui se pètent la gueule, on trouve ça tous drôle, tu sais, c'est vraiment, ça reprend un peu le... C'est pour ça, je pense que, tu sais, en tout cas, du moins, je sais pas pour le restant du Canada, mais du moins, au Québec, tous les gens que je connais qui ont vu Spaceballs relatent ce genre de scène-là très burlesque où est-ce que, tu sais, justement, la caméra qui rentre dans le dos, ou même juste Casque Noir quand il y a eu la vitesse démesurée puis qui rentre dans le board. Tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs comme ça qui fait que, gars, quelqu'un se pète la gueule, on trouve ça drôle. T'sais.
Fumez si vous n'avez pas peur! Mel Brooks aussi en profite pour faire un petit commentaire social caché, mais qui faisait partie des règles de Spaceballs. Je vais m'expliquer. À un moment donné, lorsqu'on fait la rencontre de Yaourt, il arrive, il dit dans son espèce de repère que lui, ce qu'il fait, c'est du marchandising.
Du mercantilisme!
Il vend des produits dérivés de Spaceballs. Ça, c'est présent, ce moment-là, pour deux raisons, puis ça se répercute plus tard dans le film. C'est que, au départ, Mel Brooks puis George Lucas se sont parlé. Mel Brooks est allé chercher l'assentiment puis la permission de George Lucas de parodier son film. Et George Lucas, étant un grand fan de Mel Brooks, il a dit « Il n'y a pas de problème, je t'autorise à t'inspirer de tout ce qui est Star Wars, de l'utiliser, de le dénaturer pour que tu fasses rire ton public. La seule condition que je t'impose, c'est que tu ne crées pas de marchandises Spaceballs que tu vas vendre au public parce que ça pourrait tout simplement mélanger les consommateurs avec ma propre marchandise que moi, George Lucas, je fais des fortunes depuis 1977 avec ça. » Parce que rapidement, en 77, justement, puis pendant toute la trilogie originale, les produits dérivés Star Wars, même de nos jours, ça a été un raz-de-marée de popularité, avec par-dessus ça un tsunami, avec un autre tsunami par-dessus, tellement que ça a été de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent.
Ah, encore aujourd'hui, là.
Mel Brooks a fait comme, pas de problème, ok, il s'est inspiré de cette entente-là pour faire comme, je peux pas marchandiser mon film dans la réalité, ok, ben je vais le faire dans le film littéralement. Fait que c'est pour ça qu'à partir de cette scène-là, parce qu'on voit l'espèce de gros magasin de yaourt, immédiatement après, il commence à avoir dans les plans d'autres produits dérivés, genre Spaceballs, le couvre-lit, Spaceballs, la crème à raser, Spaceballs, le papier de toilette, Spaceballs, le napperon, et Spaceballs, le lance-flamme. Fait que, tu sais, c'est hilarant, ça. Fait que, tu sais, il a vraiment pris ce gag-là.
La poupée yaourt, notre plus grand vendeur.
Adorable. Donc, c'est ça, il s'est vraiment amusé avec un peu les termes et conditions de l'entente qu'il avait avec George Lucas. Alors, tu vois à quel point il peut créer de l'humour sur un dissent, ce gars-là, Mel Brooks.
Quelque chose d'aussi légal que cette entente-là, tu sais.
Oui, exactement. Alors, tant mieux, ben, les deux ont eu ce qu'ils voulaient. C'est parfait. Sauf que je dois avouer que j'ai été voir sur Amazon puis j'ai découvert un peu de marchandises bootleg, de Spaceballs, des figurines, des affaires.
Mais
de
tu sais, ça, c'est, tu sais, après ça, c'est pas du ressort de la personne non plus, tu sais, du réalisateur
ou quoi
que
ce soit.
Exactement, tu sais, puis aujourd'hui, tout est tellement possible, tu sais, aussi niaiseusement que des macarons, tu sais, je veux dire, on s'entend, des macarons, aujourd'hui, tu peux avoir une machine, un pressoir, tu sais, pour quelque chose de ridicule chez Canadian Tire, tu sais, exactement, tu sais, fait que, tu sais, ça part de là, quelqu'un qui joue un peu avec, tu sais, le métal ou quoi que ce soit, les vieilles boîtes à lunch en métal, tu sais, c'est facile, pas le toi, quelqu'un qui est en airbrush, qui est un super bon artiste, tu sais, il est capable de créer du produit dérivé.
Fait qu'on peut avoir Spaceballs, la boîte à lunch.
Non, c'est clair, moi, je la rechercherai, en tout cas.
Rapidement aussi, pour finir un peu sur ce point-là, sur les artifices utilisés. utilisé pour créer l'humour dans Spaceballs, ben on peut y aller avec les références cinématographiques à d'autres films. Celle qui pop aux yeux, bon, la fameuse scène quand ils sont dans le désert, il y a deux grosses références énormes à Lawrence d'Arabie. Mm-hmm. Immédiatement après le fameux conflit avec le sèche-cheveux, ben à un moment donné, Yop Solo prend le sèche-cheveux, le fout sur dépose, le sol, puis après ça, tout le monde s'en va. Ben ça, ce plan-là, c'est une recréation parfaitement cadrée d'un plan célèbre dans Lawrence d'Arabie, film avec Peter O'Toole, où est-ce que dans le vrai film, c'est exactement le même plan, mais à la place d'être un sèche-cheveux qui traîne, c'est, je pense, si je me souviens bien, un cadavre oui. d'un homme. Aussi, il y a le fameux plan, le fondu enchaîné qui nous montre le soleil éclatant du désert en plein jour. Ben là, justement, il y a le moment où est-ce qu'il passe du jour à la nuit, le Tobler qui fait comme genre,
oh, mais oh, ben
alors, il y a ça, puis aussi, ben, on en discutait tantôt, la fameuse scène du chestburster d'Alien. Puis
avec le même acteur!
John Hurt, Mel! Ah oui, puis ça, c'est super drôle. Je sais pas si Mel Brooks le raconte dans le commentaire du réalisateur, mais Mel Brooks a légèrement menti un peu à John Hurt parce qu'il a fait croire que c'était juste une apparition d'un plan, tout simplement, dans cette scène-là. Alors, John Hurt fait comme, ok, ça va être quelques heures de travail, il y a pas de problème, j'accepte. Sauf qu'il a pas dit que John Hurt allait passer ces cinq heures-là en dessous d'une table, aller par-dessus, justement, un torse artificiel pour qu'il y ait une petite bébite qui en sorte comme dans Alien.
Ben effectivement, il en parle. Puis tu sais, le « Oh non, ça recommence ouais. », il est genuine.
Pour vrai, c'est lui dans qui l'a improvisé.
Sens... Non, mais c'est ça, dans le sens où Hurt ne savait pas que ça allait popper, tu sais. Fait que le take de tout ça, il est carrément genuine. À même titre que dans Alien, le cri de la fille,
qu'il est genuine.
Exactement, qu'il est genuine, il est pas acté, là, tu sais. Fait que c'est pas, tu sais, c'était pas dans le script nécessairement de cette façon-là, tu sais. Donc, c'est ça, il est genuine.
Je sais pas
vraiment...
si John Hurt s'attendait aussi à ce que le chestburster commence à
faire. Commence à
danser. Hello, my honey, hello, my darling, hello, my ragtime doll. J'ai d'autres trucs pour toi un peu plus tard par rapport à ces petits caméos visuels-là de d'autres franchises. Tina, il faut qu'on aborde un très très gros point maintenant. Je suis pas mal sûr que t'es comme moi, t'es marié à la version française de Spaceballs.
Tout à fait.
Cette version française-là qui est comme rendue culte. Personnellement, moi, je ne suis pas capable de regarder Spaceballs dans une autre langue qu'en français. Probablement toi aussi, Tina. La majorité des gens que je connais qui adorent aussi Spaceballs l'avouent aussi qu'ils l'ont très très rarement vu en anglais, puis que même quand ils commencent à l'écouter en anglais, inévitablement,
ils
appuient sur le bouton pour le remettre en français.
Mais tu sais, c'est un peu comme, tu sais, là, c'est sûr que c'est français, c'est pas québécois.
Ouais, doublé en France,
mais,
absolument.
Mais tu sais, je veux dire, ça reprend un peu l'histoire, tu sais, de Slapshot puis de Cheech et Chong, qu'on apprécie ces versions françaises-là. Bon, les deux autres, c'est québécois, mais c'est ça, comme tu disais un peu plus tôt, tantôt, c'est, tu sais, ça a passé tellement souvent à TQS, puis TQS, ça a trahi mon âge. Donc, tu sais, c'est resté
en fait,
marqué.
Ça dépend, à ton âge, t'as-tu vu Garden Party avec Michel?
Oui!
Et...
Ah, OK. Donc oui, ça trahit mon âge, je confirme. Mais non, donc c'est ça, ça a vraiment marqué l'imaginaire, puis on se le cachera pas, tu sais, c'est sorti en 87. Donc les gens de notre génération, on a appris à parler en français avant l'anglais pour la plupart d'entre nous. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on a entre 6 et 12 ans écouté pour les premières fois en français, puis que ça a été aussi accrocheur. C'est ça qui fait que, encore là, je parlais de la nostalgie qui vendait tantôt. Mais c'est ça, c'est que donc ça reste dans l'imaginaire, puis on va préférer la version française à la version anglaise.
En fait, j'ai même pas besoin de te poser la question parce que tu as répondu sans que je la pose. Mais j'allais dire, pourquoi est-ce que toi, moi, les gens de notre génération, nos amis qui adorent aussi Spaceball au même titre que nous, préfèrent cette version française originale-là? Eh bien, moi, ma théorie, c'est parce que c'est générationnel, comme tu l'expliques. On l'a tellement vu, la version française, dans notre enfance, sur VHS, à la télé, à TQS, etc., qu'on l'a assimilé. On l'a mémorisé au point où on veut pas se défaire de ce qu'on a appris en la regardant en version anglaise. Parce qu'en version anglaise, j'ai tenté de le faire. Quand j'ai eu mon premier DVD de Spaceball, j'ai écouté un petit peu en anglais, j'étais curieux. Puis c'est pas la même chose, tu sais. Les acteurs font des trucs de différents. Par exemple, lorsque Casque Noir, en version originale anglaise, baisse sa visière, Rick Moranis essaie de faire une imitation de James Earl Jones avec exactement le même type de voix, la voix plus basse, etc. Tandis que le gag, encore une fois, est un petit peu atténué de Casque Noir. En version française, même quand la visière est baissée, oui, le doubleur essaie de faire une voix grave, mais ça sort aigu quand même. Fait que c'est ça le gag de l'affaire menaçante, mais qui l'est pas ultimement, tu sais. Aussi, ben, par rapport à la version française, je compare beaucoup ça à mon attachement pour les doublages québécois des Simpsons.
Fait, ouais,
encore
ouais.
une fois, pendant des années, j'ai écouté des années, je le fais encore de nos jours,
ouais,
les versions québécoises,
pour
sûr.
Moi, c'est, depuis qu'ils ont changé, tu sais, ben, c'est ça, Béatrice Picard, ouais. ben, c'est ça, ben, depuis qu'ils ont changé, j'ai décroché, tu sais, ouais. c'est à quel point te dire, justement, quand on a des références de doublage, tu sais, puis regarde, c'est grâce à toi, tu sais, que j'ai découvert justement le site de Doublage Québec, tu sais. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, tu sais, je me ferme les yeux puis je reconnais des voix tellement facilement, justement de mon enfance ou quoi que ce soit. Fait que effectivement, les références qu'on a, tu sais, oui, il y a des bons gags mm-hmm. anglophones qui se traduiraient pas en français et vice versa. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est le côté générationnel que, tu sais, même en bruit de fond quand ça jouait à TQS, même quand t'avais 16-18 ans, mm-hmm. tu sais, puis que ça jouait encore, tu sais, on peut faire quasiment toutes les répliques parce qu'on s'en souvient, ou tu sais, c'est vraiment ça l'a vraiment marqué, en tout cas, du moins ceux qui l'ont écouté dans ce temps-là se rappellent encore.
C'est gravé dans notre mémoire, ça, absolument, les intonations, etc. Ah, c'est oui. Mon cas, c'est ton cas. Aussi, ben, cette version française-là, ben, en fait, compatiblement à la version anglaise, les deux sont drôles, mais pas au même endroit.
Exact.
C'est ça. On va en venir un petit peu plus tard, mais aussi, je voulais souligner le travail des doubleurs français qui ont fait cette version française-là. Mm-hmm. C'est mémorable à nos yeux, à nos oreilles. Parmi eux, bien sûr, il y a Luc Hamet qui fait Rick Moranis. Luc Hamet, tout le monde va connaître et se souvenir à vie pour avoir doublé Michael J. Fox dans Back to the Future, mm-hmm. bien sûr. Et la belle voix de Richard Darbois, un de nos réguliers ici à 100 commentaires ou presque, qui campe Burke, John Candy. La belle voix de Jacques France aussi, qui va faire Colonel Saint-Cyr. Jacques France, vous le connaissez parce que c'est lui qui double Mel Gibson depuis très longtemps dans le cinéma français. Et ton préféré, Roger Carrel, Astérix, qui fait le président Esbrouf. Bien amusant, donc je pense que c'est un match des étoiles. C'est encore des doubleurs qui doublent de nos jours en France, qui ont été associés à un paquet de rôles mémorables et ils ont réussi à laisser leur marque sur cette version française-là de Spaceballs pour nous la faire aimer puis nous faire accepter aucun autre substitut. Ce que je trouve un peu bizarre aussi, c'est, bien sûr, moi je recommande bien sûr au moins écouter une fois Spaceballs en anglais pour la forme, parce que comme je disais tantôt,
c'est pas aux mêmes places qu'on vit.
Pas aux mêmes places, puis aussi il y a des gags un petit peu dénaturés. Je prends par exemple, j'ai deux exemples bien probants. Au départ, la fameuse scène du Monsieur Café, quand Casque Noir prend une gorgée, il semble s'étouffer avec, s'insère, il donne une tape dans le dos, puis après ça, il recrache la gorgée. Puis en français, il dit « C'est pas du café, c'est du décapant! » Sauf qu'en anglais, c'est plus simple, c'est « too hot ». C'est juste, c'est trop chaud.
Ah, ça, je m'en rappelais pas.
À ça, fait, je cache pas pourquoi ils l'ont pas simplifié. Ça aurait fait assez de dire, c'est bouillant, ou quelque chose du genre, je sais pas. Et en tout cas, whatever, il y a des sens qui ont été un petit peu transformés. Hein.
Tout à fait.
Mais aussi, comme je te disais à Ordon, ce que je trouvais amusant en faisant un peu comparatif hier soir en regardant le film en préparation de l'épisode d'aujourd'hui, tous les doubleurs français qui ont été sélectionnés ont toutes des voix plus aiguës que leur contrepartie américaine, que les acteurs qui jouent dans le film. Comme je te disais encore, la voix de Princesse Vespa, très aiguë, même un petit peu nasillarde justement,
même juste
en version
quand
française.
Même juste quand t'as chante, parce que dans la version française, tu sais, quand t'es capturé, puis nobody knows, mais c'est vraiment sa voix, tu sais, qu'on entend, fait qu'effectivement, elle est beaucoup plus grave
exactement.
Que sa contrepartie francophone.
Même t'sais. Chose aussi pour Rick Moranis, que John Candy, Mel Brooks, même John Rivers aussi, qui a une belle voix, qui a fumé des cigarettes pendant 60 ans dans sa vie. Mais aussi la petite voix nasillarde de Todd Matrix. Alors, c'est ça, c'est une petite observation que j'ai fait à brûle-pourpoint, mais...
Ça rajoute au côté comédie,
exactement,
je te dirais,
parce qu'on dirait que des voix aiguës, ça fait plus rire que des voix graves.
Oui, tout à fait. Non, fait que non, c'est un bon, c'est une très bonne observation.
Je sais pas si c'est un hasard ou un coup de génie de l'adaptateur puis directeur de casting en France, mais il y a quelque chose, c'est peut-être qui contribue encore une fois au fait que c'est mémorable pour nous autres.
Tout à fait. Non, tout à fait.
Puis aussi, ce que j'ai beaucoup remarqué aussi, et je vais t'en donner la preuve, il y a des doubleurs français avec des petits rôles dans le film qui ont poussé encore plus loin leur performance comédique vocale pour surpasser celle de l'acteur à l'écran. Je vais t'en donner une comparaison, Tina, in extenso, à toi et à nos auditeurs. Je vais vous faire écouter un extrait en français et en anglais. On va commencer par en anglais. C'est le moment où est-ce que, justement, il y a un officier Spaceballs qui arrive, un genre de lieutenant qui est joué par le toujours très drôle Steven Tobolowsky dans un de ses premiers rôles. Si vous connaissez pas Steven Tobolowsky, allez regarder, par exemple, Californication ou d'autres séries américaines. Il est hilarant. Il y a deux performances. Il y en a une en anglais et l'autre en français donné par le doubleur. Les deux sont pas pareils et je mets un petit 2 que vous allez trouver que la version française, elle est plus drôle que la version anglaise. Alors on commence par la version anglaise tout de suite.
Spectacular stunt, my friends. But all for naught. Turn around, please. Ah, what a pity. What a pity. So, princess, you thought you could outwit the imperious forces... You idiots! These are not them. You've captured their stunt doubles! Search the area! Find them!
Tandis que là, on y va en français, ok, avec le doubleur, je sais pas c'est quoi son nom, mais il a élevé d'une coche cette scène-là. C'est parti.
Spectaculaire, votre cascade, mes chers amis, mais tout à fait inutile. S'il vous plaît, demi-tour? Oh, dommage, comme c'est dommage. Alors, princesse, vous pensiez pouvoir échapper à l'invincible force de... Ah! Vous n'êtes que des idiots! Ce ne sont pas les vrais! Vous avez capturé les cascadeurs qui les doublent! Fouillez partout! Retrouvez-les!
Fait qu'on le voit tout de suite, le doubleur a rajouté les deux petits cris d'étonnement qu'il n'y a pas dans la version originale de Tobolowsky. Puis justement, le petit spectaculaire cascade, mais tout à fait inutile! C'est, je le trouve très drôle. Fait que j'ai toute la journée, quand quelqu'un venait me voir au travail, je faisais spectaculaire! Anyway, c'est ce genre de problème mental que j'ai dans la vie. Alors voilà, ben chapeau à ce doubleur-là.
Ouais, l'adage qui veut que trop, c'est comme pas assez. Tu sais, c'est pas quand... Mais non, là, c'est correct d'avoir mis le trop, là.
C'est ça, je pense pas que Mel Brooks s'y soit opposé, bien honnêtement. Dis donc, maintenant, je vais rentrer dans ton intimité la plus intime.
Vas-y donc.
J'ai envie de savoir, toi et moi, on connaît Spaceballs par cœur. Est-ce que, par exemple, comme un peu, on le fait avec François Pérusse ou des répliques des Simpsons, y en a-tu des répliques de Spaceballs version française que t'as incorporé dans ton quotidien?
Ah, ben, tu sais, c'est sûr que la fameuse, c'est, quel con, ce con!
Quel con, ce con!
Tu sais, ça, c'est sûr que ça revient plus souvent. Ou même, tu sais, je suis entouré de trous du cul! Il y en a juste tellement, je pense que, tu sais, en faire la liste, j'en aurais sûrement, je pense que je reprendrais le script peut-être au complet du film, tu sais. Mais je pense que ces deux-là, c'est vraiment, ben, un, c'est mes préférés, puis deuxièmement, tu sais, c'est celles qui reviennent le plus, puis qui... dans le monde, tu sais, comment je pourrais dire, dans n'importe quelle situation de la vie, tu sais, des cons et des trous du cul, il y en a un peu partout, tu sais. Ouais. Puis je te dirais que ces petites répliques-là, je les utilise surtout en voiture. Je fais pas le road rage, mais je lance ce genre de réplique-là.
Si tu veux aussi, moi j'ai un petit truc à te donner. Si tu veux insulter quelqu'un sans qu'il le sache, puis que c'est vraiment un con, un trou du cul, tu peux t'arriver près de lui puis dire « Vous êtes un sacré Spaceball! » Ça veut tout dire.
Effectivement.
Excellent. De mon côté, il y en a deux que j'ai dans mon vocabulaire depuis des années, puis tout le monde qui m'entoure dans ma vie personnelle ou au travail le savent. La première, c'est si, admettons, je regarde un film avec quelqu'un ou faut avancer une vidéo, ben, j'ai toujours... Dès que mon ami a le télécommande dans les mains, écoute, j'arrive, avance rapide, feu, feu! Puis après ça, il appuie sur fast forward. Ou bien, ma préférée, au travail, quand il y a des employés qui viennent me voir un peu en panique en disant, Seb, on a un gros problème, qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, de répondre, faites n'importe quoi! Faites n'importe quoi! Faites n'importe quoi!
Faites n'importe quoi! Faites n'importe quoi! Faites n'importe quoi!
Donc, les gens savent pas de quoi je parle, mais moi, je sais exactement à quoi je fais référence.
Ben, voilà. C'est ce que je disais au début de notre épisode, tu sais, quand tu m'as demandé pourquoi j'avais choisi cet épisode-là, ben, c'est-à-dire ce film-là pour créer l'épisode. Ben, tu vois, tu fais juste me prouver depuis le début, tu sais, à quel point, quand je disais que t'as tellement ce don-là de personnifier et de sortir les répliques à la fois exactes et avec la bonne intonation, c'était un plaisir coupable, mais tu m'envoies excessivement gâté.
Eh ben, tout le plaisir est pour moi. Quels sont tes moments préférés du film, tu sais, rapidement?
Ben, j'avoue, tu sais, comme dans l'extrait qu'on a vu, tu sais, quand ils se font capturer, que c'est des doublures, tu sais, encore là, la référence à Hitler quand il se retourne. Ou même juste comme la fin, quand les Spaceballs arrivent sur la planète des singes, puis qu'il lui sort... Mais qu'est-ce qui lui sort du nez? Tu sais, ou ben, tu sais, que la ménagère, ça soit la Statue de la Liberté, ça aussi, c'est des petits peurs, tu sais.
Juste Charlton Heston.
Ou tu sais, même juste quand Président Hesbrouf, il respire l'air, tu sais, qu'avec sa canette,
de Perrière, c'est ça.
Mais tu sais, il y en a tellement encore là, ça c'est comme pour les quotes, tu sais, c'est pas pour rien que j'avais choisi ce film-là, puis je savais qu'on aurait vraiment du plaisir à le faire.
C'est merveilleux. Moi j'en ai trois rapidement, que dès que je pense à Spaceball, je pense inévitablement à ces trois-là. La fameuse scène de la cassette minute qui me fait toujours rire. Le combat avec les épées laser entre Yop Solo,
oh, le con!
Casque noir. Écoute-moi, dès qu'il y a une épée laser verte, là je capote, ok? Et vous allez découvrir pourquoi, parce que, chers auditeurs, dans quelques mois, eh bien, je vais vous réserver un petit quelque chose... J'en dis pas plus, mais un autre invité et moi, on va beaucoup parler d'épée laser verte, ok? On n'en dit pas plus pour l'instant.
Ça va être l'épisode de décembre pour fitter avec Star Wars.
On verra peut-être, tout est possible. Vous allez utiliser le MP3 minute pour le découvrir. Et la dernière, bien sûr, le classique des classiques, la scène de la vitesse démesurée, justement, genre, c'est merveilleux. Vitesse lumière! Vitesse ridicule! Vitesse démesurée!
Mais ce sont les Spaceballs! Ils nous ont dépassés!
Ils ont fait des progrès! Puis juste le moment où est-ce que c'est merveilleusement filmé, puis c'est tellement bien arrangé, le moment où est-ce que t'as un casque noir qui s'en va voler dans la console. Wouah! Ça me fait tellement rire,
c'est magique!
On s'en vient tranquillement vers la fin, Tina. Tina, recommandes-tu Spaceballs? Si oui, pourquoi?
pense que poser la question, c'est y répondre. Ouais. Oui, parce que n'importe qui a vu justement toutes les références auxquelles, tu sais, on a dans le film, tu sais, c'est de faire comme, puis justement tu disais tantôt, puis j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est ça, tu sais, se sentir un peu important. J'ai, tu sais, comme Captain America, il dit, j'ai catché cette référence là. Ouais. Ben on est un peu comme ça, tu sais, parce que on voit tous les grands films, tu sais, qui ont été repris ou parodiés ou quoi que ce soit. Puis ben pourquoi je le recommande, mais c'est juste, tu sais, garde, c'est un film que tu fais décrocher ton cerveau, puis tu ris, puis tu sais, c'est vraiment justement un bon film de dimanche après-midi comme à TQS il passait dans le temps, puis tu sais, c'est winner.
Et voilà. Naturellement, je le recommande aussi, encore une fois, comme je le disais en début d'épisode, c'est la comédie qui sera toujours sur mon top 1. Vous avez Mel Brooks à son meilleur, vous avez un ensemble de casting comédique vraiment fantastique, il y a des trouvailles de gags absolument incroyables, il y a des gags au pied carré, puis à la seconde près là-dedans, puis surtout ces gags-là, même à 34 ans, à ma 2 millionième, genre, écoute, j'en redécouvre. C'est comme moi, tu sais, qui m'a fait rire plus tard dans ma vie, c'est au moment où est-ce que justement Space Boss 1 va devenir méga ménagère. Ben, juste avant, t'as comme Saint-Cyr qui dit « Préparez-vous à la métamorphose! » Puis là, genre, t'as Casque Noir qui dit « Prêt Kafka! » Ben, c'est une référence à Franz Kafka, puis son roman La Métamorphose, tu sais. Toujours des gars à redécouvrir, même peu importe à quel...
Mais c'est un peu comme un Pérus qui vieillit bien, tu sais. Je veux dire, des fois, tu vas réécouter des choses, puis, ou tu sais, à différentes époques de ta vie, puis tu vas faire « Oh my God, j'avais pas eu cette référence-là, ou j'avais pas catché ça, les fois ou la fois que je l'ai vu. » Ben, c'est à peu près la même affaire pour Spaceballs, tu sais.
Tout à fait. Fait que c'est encore un beau joyau à l'époque où les pastiches de films puis les comédies satiriques avaient la cote, parce que dans les années 2000, il y en a qui se sont essayés avec les scary movies, les epic movies, date movies, Meet the Spartan, qui ont littéralement tué le genre.
Tout à fait.
Et là, maintenant, ben, regardez, ce genre-là, en 87, était à son pic, il était accompagné pas trop loin par les Airplane avec Leslie Nelson, L'Agent fait la farce, etc. On était dans ce pic-là. Spaceballs, c'est un des joyaux de cette époque-là. Ça s'écoute très bien. En famille, entre amis, on peut le montrer à tout public.
Oh, oui, vraiment.
Et voilà, on se bidonne, puis tant mieux. Faites-vous un programme double avec Star Wars puis Spaceballs après, peu importe. Et c'est un feel-good movie. On se sent très, très, très bien.
Ah, c'est ma partie préférée.
Tina, on a déjà presque fini et je peux pas te laisser partir sans le retour de cette fameuse section que j'ai baptisée
« Savais-tu,
Tina? » Pour ceux qui joignent à nous, ben, je suis allé chercher des anecdotes derrière scène sur le tournage du film puis un peu son historique que les gens ne connaissent pas vraiment. Alors, j'ai décidé de vous partager tout ça. Es-tu prêt?
Ah oui, tout à fait.
Savais-tu, Tina, que c'est l'acteur James Caan qui était le premier choix de Mel Brooks pour interpréter Yop Solo?
Oh my!
Malheureusement, ses divers problèmes de dépendance à l'époque le rendaient trop difficile à assurer pour le studio. Avant que Bill Pullman décroche le rôle, Tom Hanks et Tom Cruise ont aussi été approchés par Mel Brooks pour le rôle de Yop Solo.
Remarque, non, Tom Cruise, à la grandeur qu'il a, j'aurais pu voir le casque noir!
Ouais, c'est ça exactement. Ça aurait été un ennemi à sa hauteur.
Oh! Oui. Zing!
Zing. Savais-tu, Tina, que, avant de convenir du maquillage final que porte John Candy dans le film, plusieurs autres concepts ont été explorés pour donner vie à Burke. L'un d'eux était de faire porter à Candy un masque facial complet ayant la forme d'un visage d'un bulldog français.
Ooh.
Mais John Candy, dans le fond, tu peux pas cacher son
non,
visage,
cacher
sinon
sa
tu prendrais
face.
Juste quelqu'un qui coûte la moitié moins cher.
Exactement,
t'sais.
Tout à fait.
Savais-tu, Tina, que quand Casque Noir demande combien il y a de trous du cul dans son vaisseau, il n'y a qu'une seule personne qui ne lève pas la main?
Ah, j'avais pas remarqué!
Eh oui, il est en avance, c'est un gars assis à une console.
Il va falloir que je le réécoute juste
ouais,
pour
il fait juste regarder tout le monde en disant « je suis pas concerné ». Savais-tu, Tina, que lorsque Yaourt montre à la caméra une copie du livre à colorier Spaceballs, on voit très clairement sous la couverture le Transformer Optimus
oui,
Prime?
Oui, tout à fait, ça je m'en rappelle.
Savais-tu, Tina, que le Faucon Millennium fait un caméo dans Spaceballs? On peut le voir dans le stationnement du restaurant où Yop Solo et Burke s'arrêtent pour manger à la fin du film. Savais-tu, Tina, que la nouvelisation du film a été écrite par R.L. Stein, l'auteur de la célèbre série de romans d'épouvante Chair de poule?
Tu vois, ça, je l'ignorais. C'est bon.
Savais-tu, Tina, que le nom du Winnebago spatial de Yop Solo s'appelle l'Aigle 5, ou en anglais Eagle 5? En 1996, Bill Pullman a choisi le même nom pour nommer l'avion que son personnage pilote dans la bataille finale du film Independence Day.
Oh, il va falloir que je réécoute aussi!
Il dit à la fin, Aigle 5, missile 1, feu! Et pour finir, Tina, savais-tu qu'en 2008, Mel Brooks a ramené l'univers de Spaceballs au petit écran en créant une série en dessin animé de 15 épisodes. Brooks, Daphne Zuniga et Joan Rivers ont été les seuls acteurs du film original à revenir prêter leur voix à leur personnage. Pour les curieux, tous les épisodes sont disponibles dès maintenant sur YouTube.
Oh, c'est nice!
Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode qui a été un réel plaisir pour moi à faire. Je trouve que ça commence sur les chapeaux de roue et en force cette deuxième saison de 100 commentaires ou presque. Ça aurait pas été la même chose sans toi.
Puis là, les girls, s'il vous plaît, à date, je sais qu'il y a sûrement des femmes qui sont intéressées à venir prendre le micro. Donc, gâtez-vous.
Bien, je donne un aperçu. Il y en a deux autres qui s'en viennent. Alors,
je voilà. Ne suis plus la seule.
Non, j'y tenais. Ça va être du girl power et
non,
mon Dieu, qu'elles vont être intéressantes.
Non, mais t'es adepte de la parité quand même.
Ah, tout à fait, exactement. Voilà. Alors voilà. Et mesdemoiselles, ben, j'ai hâte de vous avoir derrière mes micros. Et chers auditeurs, je vous garantis des épisodes mémorables avec elles aussi. Alors en attendant, à mon nom personnel, Sébastien Bourget, je suis en compagnie de Tina Faneuf. Je vous remercie énormément de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de 100 commentaires ou presque.
Et que la soit avec vous.